vous suit.
Voici les titres du journal.
Le Conseil d'État vaudois appelle à prioriser ses projets face à un contexte financier dégradé. Il l'a rappelé hier lors de son bilan de mi-législature. Le musée suisse de l'appareil photographique à Vevey dévoile sa nouvelle exposition. Intitulée Mining Photography, elle fait le lien entre l'industrie de la photo et son impact environnemental. Avant de penser à une quelconque remontée au classement, le FC Montais cherchera à assurer son maintien en première ligue et ce dès demain à Cofrane dans le canton de Neuchâtel.
Pour la météo, du soleil après la dissipation des derniers nuages pour ce vendredi, du soleil aussi pour demain et puis dimanche, un temps assez ensoleillé nous est annoncé. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Le plan d'aménagement détaillé de la carrière des RAP à Saint-Maurice est visé par un référendum. Le comité opposé au projet a déposé ce matin l'ensemble des signatures requises auprès de l'administration communale. Propriété de la bourgeoisie, la carrière des RAP a été au cœur de nombreuses discussions en fin d'année 2024. Le plan d'aménagement détaillé avait été accepté en décembre dernier par le législatif agonois. Ce nouveau PAD doit permettre de poursuivre l'exploitation de la carrière durant 15 ans maximum avant de créer un dépôt pour matériaux non pollués. Contacté ce matin, le président de Saint-Maurice, Xavier Lavanchy, confirme l'information et indique que les paraphes sont en cours de validation. Si tout est en ordre, la population agonoise devra se prononcer quant à l'avenir de la carrière des RAP.
Ils sont 5 jeunes Valaisans et ont le projet d'ouvrir une épicerie solidaire à Fuy.
C'est dans le cadre de leur travail de bachelor en travail social à la HESS au Valais que l'idée est née. L'épicerie du cœur doit ouvrir le 13 mars prochain au cœur de Fuy. L'objectif, proposer des denrées alimentaires sèches et des produits d'hygiène gratuitement. Grâce à des partenariats avec des commerces de la région, les jeunes pourront récupérer les invendus qu'ils mettront à disposition des personnes dans le besoin. Mais pour que ce projet voie le jour, l'équipe compte également sur la solidarité de la population. Elle organise donc plusieurs événements pour récolter des fonds. Benjamin Baïs, étudiant en emploi en travail social à la HESSO et membre de l'épicerie solidaire.
Demain, samedi 15 février, nous avons la raclette de soutien au Café des Alpes à Fuy. Ensuite, nous avons 3 dates avec 3 récoltes solidaires, le 22 février, le 5 mars et le 8 mars. Donc là, nous allons dans les différents magasins avec des caddies pour expliquer notre projet. Donc nous serons derrière les caddies, nous aurons des flyers, nous allons expliquer nos projets aux citoyens. Et puis, nous allons demander un petit coup de pouce de la part de la population s'ils peuvent mettre un paquet de pâtes, un paquet de riz, une conserve, afin de pouvoir approvisionner le magasin. Et l'objectif, c'est que de temps en temps, de continuer de temps en temps à faire des récoltes solidaires, peut-être une par mois, avoir nos stocks pour pouvoir faire rendre ce projet pérenne.
Ce projet solidaire est soutenu par la paroisse des Deux-Rives, comptant les communes de Fuy, Saillon, Les Troncs, Rides, Isérable et Saxon. Ces dernières œuvres déjà à Fuy avec la boutique du cœur qui propose des vêtements à prix réduit. L'épicerie prendra place dans un local attenant à la boutique, un sujet de Martine Wüstiner. Le Grand Conseil valaisan a rejeté aujourd'hui un postulat du Centre du Valais romand visant à créer une loi cantonale pour simplifier les démarches administratives. Le texte n'a recueilli que 36 voix favorables contre 89 oppositions. Pour la députée Ludivine Luy, l'objectif était d'inscrire l'obligation de simplification dans le processus législatif. Une idée contestée par l'UDC et le chef du département de l'énergie et des finances, Roberto Schmitt, qui estime que les bases légales existent déjà pour réduire la bureaucratie.
Le Conseil d'État vaudois, pour sa part, dressait le bilan de ses actions à la mi-législature.
Celui-ci a été marqué par la concrétisation de projets comme la baisse fiscale et la nouvelle péréquation intercommunale. En parallèle, l'État a absorbé les charges liées aux crises internationales, à l'image de la guerre en Ukraine et l'inflation. L'exécutif ajoute qu'il priorisera certains projets au détriment d'autres afin de maîtriser l'augmentation des charges et de maintenir l'attractivité du canton. Ce dernier, selon Frédéric Borloo, doit également chasser l'administratif. Les précisions du conseiller d'État en charge de la formation professionnelle et de l'enseignement au micro de Guillaume Abbé.
Chasser l'administratif, inutile. Je vous partage une anecdote. Je venais d'entrer en fonction en 2022. Je passe à côté d'une école. Je vois qu'il y a de l'activité alors que l'école n'avait pas commencé. Évidemment, les enseignants préparaient leur enseignement à venir. Et finalement, juste avant de partir, je leur ai dit, si vous deviez avoir quelque chose qui change. Qu'est-ce que c'est ? Et j'ai été surpris d'entendre que c'était les tracasseries administratives.
Et 2 ans et demi plus tard, quelles améliorations vous pouvez leur faire part ?
C'est un travail qu'on a commencé, mais qui ne porte pas encore ses fruits. Pour vous donner quand même quelque chose de concret, on a simplifié un tout petit peu l'achat de petits matériels en libérant les enseignants de l'obligation d'acheter au même endroit. Ils peuvent maintenant acheter pour des petites sommes du petit matériel de classe où ils veulent.
Dans ce contexte, le Conseil d'État combattra l'initiative populaire en matière fiscale dite des 12%.
Le musée suisse de l'appareil photographique à Vevey accueille une nouvelle exposition.
Intitulée « Mining Photography », elle tente d'expliquer aux visiteurs l'impact environnemental de l'industrie photographique. C'est la seule occurrence francophone de cet événement qui vient d'Allemagne, de Hambourg plus précisément. L'un des aspects relevés par cette exposition, c'est l'invisibilité de l'impact écologique dans la photo numérique. Pauline Martin, directrice du musée suisse de l'appareil photographique.
Et ce qui se passe avec le numérique, c'est qu'on a encore moins conscience de son impact environnemental, puisque quand on fait une photographie, on n'a pas conscience que ça coûte quelque chose. Avec l'argentique, on savait qu'appuyer sur le déclencheur, ça utilise du papier, ça utilise différentes ressources, et puis ça coûte. Avec le numérique, on peut appuyer 50 fois sur le déclencheur, on n'a pas conscience que ça coûte quelque chose, alors que, évidemment, dans le numérique, il y a beaucoup de dépenses énergétiques pour refroidir les data centers avec beaucoup d'eau, les terres rares pour faire les semi-conducteurs et les différents éléments nécessaires. Ça sert à la production de ces photographies, beaucoup d'autres choses. Et en plus, la production de la photographie numérique est exponentielle. On produit des milliards de milliards d'images chaque année dans le monde. Et donc, cette prise de conscience-là, elle est quand même nécessaire pour qu'on puisse comprendre que chaque acteur, donc tout le monde, a un rôle à jouer dans cette histoire-là.
Une exposition à voir à Vevey jusqu'au 8 juin prochain au Musée suisse de l'appareil photographique. Un sujet de Léa Journaud. 2025, c'est l'année internationale des coopératives. L'occasion de s'intéresser à un modèle particulièrement répandu en Suisse, les coopératives d'habitation. Celles-ci représentent près de la moitié de toutes les entreprises coopératives. Elles logent environ 4,5% de la population, une tendance à la baisse car les terrains se font plus rares et plus chers. Pourtant, les coopératives peuvent jouer un rôle dans la pénurie de logements actuels. Elles proposent des loyers environ 20% moins chers et une meilleure sécurité du bail. Les logements coopératifs ont aussi d'autres avantages. Les précisions de Fabienne Abetel, membre du comité directeur de la Fédération des maîtres d'ouvrage d'utilité publique coopérative d'habitation suisse.
Elles contribuent à une bonne mixité sociale. Elles proposent des logements pour toutes les couches de la population et toutes les générations. On peut dire aussi qu'elles sont innovantes parce qu'elles développent fréquemment des nouvelles formes d'habitat et de cohabitation. Cela vient du fait qu'elles sont en général très orientées vers les besoins des gens. Elles sont bien placées pour répondre aux changements sociaux. Et c'est particulièrement d'actualité en ces temps d'urgence climatique, c'est qu'elles sont très souvent pionnières lorsqu'il s'agit de construire de manière durable tout en ménageant les ressources. Elles ont un parc immobilier qui est en général très bien entretenu. Elles sont souvent à la pointe en matière de rénovation énergétique.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vieumier. La part de logements coopératifs varie fortement d'un canton à l'autre. En Suisse romande, les cantons qui possèdent une loi sur le logement comptent davantage de coopératives. C'est le cas de Genève, Vaud et Neuchâtel.
Le conseiller national saint-gallois Markus Ritter se lance dans la course pour succéder à Viola Amert au gouvernement fédéral.
Âgé de 57 ans et agriculteur bio à Altstetten, il est reconnu comme un lobbyiste influent et possède un large réseau. Son engagement pour les familles de paysans et sa popularité en font un sérieux prétendant, d'autant qu'il est le premier à avoir été se porter candidat après que d'autres centristes ont renoncé. Si élu, Markus Ritter deviendrait le deuxième membre du gouvernement issu du canton de Saint-Gall après Karine Keller-Souter. Toutefois, la présence de 2 Saint-Gallois et de 4 conseillers fédéraux d'origine agricole pourrait aussi jouer contre lui. On passe au sport. Les Suisses sont en embuscade après la première manche du géant des mondiaux à Saalbach en ski alpin. Loïc Meyer et Marco Odermatt figurent en effet au deuxième et troisième rang derrière le Norvégien Timo Hogan. Tout reste donc possible pour eux deux avant la deuxième manche prévue en début d'après-midi à 13h15. Un autre Suisse peut encore rêver de ce podium. Thomas Tumler figure à la 6e place avec 63 centièmes de retard sur le leader. À noter que pas moins de 10 skieurs ont bouclé leur parcours court dans la même seconde. Dernier Helvète en lice, Luca Erni a lui été très rapidement éliminé après quelques portes seulement.
Le FC Montais ne pourra pas viser le top 5 en Première Ligue.
Ce sont là les mots de son entraîneur, Lucien Denervaux. À 2 jours de la reprise du championnat, le technicien fribourgeois entend créer quelques surprises, mais la priorité sera de se sauver le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, les Chablaisiens possèdent 9 points d'avance sur le premier relégable. Un matelas confortable, mais Lucien Denervaux prévient que son équipe ne devra pas se reposer sur ses lauriers.
Le plus important, c'est de faire les points le plus rapidement possible pour se sauver mathématiquement le plus rapidement possible. Nous, on est le chassé, et puis on va être le chasseur par rapport aux équipes qui sont au-dessus de nous. Donc ça, c'est la réalité du championnat. Maintenant, nous, on doit toujours se méfier. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Hein. Tu peux perdre 3 matchs d'affilée, et puis les autres, ils gagnent 3 matchs d'affilée. Et on se retrouve à égalité de points. Maintenant, on verra un petit peu les dynamiques, comment elles vont se passer. Mais c'est clair que nous, notre objectif premier, c'est de se sauver le plus rapidement possible, même si on a une petite marge. Et puis après, on parlera de la suite et puis de savoir qu'est-ce qu'on peut aller viser.
Le FC Montais jouera demain en championnat à 14h30 sur le terrain du FC Cofran. Un sujet de Thierry Nicolet.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.